sur Moment 3.
Voilà, c'est parti, parce que nous allons prendre tout de suite direction Kananga pour le reportage de la Benevoletia avec vous, Nathalie Mouteba.
Oui, aujourd'hui, J.R. Lungembo, nous allons parler de ce qui concerne les traumatismes. Eh bien, au Kasaï occidental, deux regroupements populaires constituent le socle autour duquel gravite la géopolitique kasaïenne. Il s'agit de regroupement Lulua Frères qui a pour adhérents tous les Lulua de l'unité kasaïenne qui est composé de l'ensemble des autres populations de la province. Dans la plupart du temps, les populations qui militent dans ces deux regroupements vivent dans la symbiose, mais très souvent et quand les intérêts sont divergents, les divisions apparaissent au grand jour. Des exemples sont légion et récents. C'est ce que va nous faire c'est ce que nous propose André Kambala dans ce reportage.
Les deux corporations ont vu le jour peu avant l'accession du pays à l'indépendance. D'après les historiens, le regroupement qui a été le premier mis sur pied était l'association Lulua Frères. Créée en 1952, son objectif à l'époque avait pour ambition de faire valoir les qualités professionnelles et intellectuelles des ressortissants de la province au pouvoir colonialiste. L'argumentaire des ressortissants de l'époque était que cette ethnie était marginalisée dans la fonction publique. Professeur Samuel Tijuko Kabongo de l'ISP Kananga.
L'association Lulua Frères va naître en 1952. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en 1950, lorsqu'on a transféré le chef lieu de la province du Kasaï de Lusambo à Louyabon, les Louyabons ont constaté qu'ils étaient minorisés, ils n'étaient pas assez nombreux dans l'administration coloniale. Alors, un d'entre eux, Auguste Mutafikai, a eu le courage d'initier une lettre, devenue une lettre historique, pour montrer comment les lois étaient marginalisées par le pouvoir colonial. Sa lettre date du 15 juin 1951. Cette lettre a été adressée à l'administrateur du territoire de Louyabon. Il était signé conjointement par Mutafikai et par un certain Lulua, Laurent Kapoko, qui travaillait à la librairie de Nanestat. En réponse de cette lettre, les autorités administratives d'Erich ont conseillé aux Benelulua de constituer une association qui va regrouper tous les Lulua en vue de défendre leurs intérêts tribaux face à la prédominance inquiétante de Luba du village. L'association fut donc créée en 1952 et elle fut agréée le 25 juillet 1953 par le commissaire de district qui s'appelait M. F. de Belguer. D'après le professeur Crawford de Yang, il note qu'en 1953, à peine reconnue, cette association n'avait pas d'égal. Elle avait des sections dans tout le Congo belge, elle avait des sections en Angola, en Rhodésie du Nord, qui s'appelle maintenant Zambi, au Rwanda, dans le Burundi, au Congo français, Congo Brazza, et même aux États-Unis. Les membres de cette association de frères ont fait des cotisations qui ont été vraiment importantes à tel point qu'ils ont construit l'édifice qu'on appelle dans la commune de l'Andesha, cercle de Lulua Frères, avait coûté plus de 800 000 francs congolais, alors que le solde à la banque du Congo belge était de 2 900 000. Cette association Lulua Frères a mené plusieurs activités. Il y avait des bouches à donner aux élèves de Lulua. On imprimait des calendriers de Lulua Frères. Il y avait des équipes de football. Il y avait des danses folkloriques. Et en 1958, cette association s'est liée en un parti politique.
L'unité kasaïenne, elle, a vu le jour en 1959. Ses membres sont issus de presque tous les territoires du Kasaï occidental. Les territoires de Mweka, Luiza et Ilebo dans leur entièreté. Les secteurs de Bampende, Loza, Lushiku, Kasaï Luangatimwe, Loza Luangatimwe et Kasaï Disadi dans les territoires de Tikapa. Kavula, Mboy et Chitadi dans les territoires de Kazumba, Lukibu à Dimbelenge, Djokopunda à Luebo et Tissul dans les territoires de Dibaya. Un membre de cette association parle de l'origine et de l'unité kasaïenne.
En 1959, lorsqu'il y a eu la chasse de Baluba par le Lua dans le Kasaï occidental, à Lulabour à cette époque-là, les autres tribus non Lua se sont trouvées devant une situation. Il y avait l'égoïsme, le mépris, la domination, la ségrégation, la discrimination tribale par nos frères Lulua. Et les non-Lulua ont décidé de créer une entité à eux. Alors, devant cette situation, certains notables de cette tribu non-Lulua se sont réunis pour créer leur propre entité dans la province de l'Unité Kassaïenne à partir de 1961. C'est ainsi qu'en 1962, le gouvernement central a approuvé leur demande, d'où la création de la province de l'Unité Kassaïenne qui avait comme chef-lieu Tchikapa. Alors, en créant cette province, on devait avoir un président provincial qu'on appelait à l'époque, et pour le moment c'est le gouverneur. C'était M. Kaman Grégoire, qui était ministre de la Santé du gouvernement central, qui était devenu président provincial au gouverneur actuellement. Il a été succédé par Ningambengele François, qui était député provincial. Après Ningambengele, c'était Mbombo Robert, jusqu'à la suppression de l'unité kassaïenne en 1966 par le président Mobutu. Cette suppression nous a vraiment surpris parce que nous ne savions pas que notre province était viable. Le président Mobutu a été influencé par le premier ministre de l'époque.
À ces jours, les choses ont connu une mutation significative. Les revendications sont autant professionnelles, culturelles que politiques, ce qui amène souvent les détracteurs de ces groupes à les voir comme des corporations à la base du sous-développement du Kassaï occidental et conséquemment incapables de prendre à cœur les intérêts de la population de toute la province. Grégoire Nyongwampoy, de la société civile.
De par notre naissance, nous pouvons bien avoir été nés dans l'une ou dans l'autre, mais je crois que c'est une division qui n'a fait que continuer au sous-développement de la province du Kassaï occidental et à tout ce qu'on a connu comme régression par rapport à d'autres provinces. Moi, je crois que je milite plutôt pour l'unité globale donc de tous les fils et de toutes les filles de la province du Kassaï occidental, parce que maintenant, nous avons par exemple un grand défi qu'il faut relever, le défi derrière lequel nous nous trouvons. Depuis belle lurette, avec tous les régimes politiques qui passent, c'est l'obtention du courant électrique pour la province du Kassaï occidental. Je ne pense pas que ce courant, s'il peut vraiment venir chez nous, ça va être un courant qui va profiter seulement aux loups à faire ou bien seulement à l'unité kassaïenne. Donc sincèrement, je ne m'inscris pas dans ce schéma-là de bipolarisation de ce peuple. Je suis plutôt pour la véritable unité, l'unité globale qui prend tous les enfants de la province.
Une autre frange de la population est plutôt d'avis que ces regroupements associatifs peuvent avoir un rôle positif à jouer quand les manipulations politiciennes sont laissées de côté. Pour Edel Martin Kabuta Kapwa, responsable d'une ONG des droits de l'homme à Kananga, les disputes politiques de ces deux associations viennent plutôt mettre à nu les intérêts personnels. Edel Martin Kabuta Kapwa.
Sur les conflits comme celui qui a secoué la province du Kassaï occidental, je suis de ceux qui disent que c'est-à-dire cette division-là n'est venue que s'ajouter sur la crise qui existait déjà. C'est-à-dire je peux trouver ça comme étant les conséquences de cette crise. Mais les problèmes de l'unité kassaïenne, de la politique d'approfondir davantage la crise, d'affoncer davantage la crise. Vous savez, on a toujours dit les régionalismes, c'est les nationalismes au niveau le plus bas. Chaque tenue, chaque tribu peut garder son identité, mais je pense que ce que nous devons envisager, c'est d'encourager cette diversité dans l'unité, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. C'est culturel, on ne peut pas perdre son identité culturelle parce qu'on se retrouve ici, cela. Cette identité culturelle ne peut être encouragée que dans le sens où elle contribue au développement d'une nation, d'un peuple, plutôt qu'au détriment de cela.
Ces derniers temps, l'escalade entre les institutions, les nominations de personnalités et bien d'autres aspects de la vie politique et sociale sont souvent venus montrer la difficulté pour les fils et les filles de la province du Kassaï occidental à harmoniser le point de vue. Cela au détriment des convergences de vues qui les caractérisent quand on approche les grands événements. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Ben voilà, c'était là donc le reportage réalisé par notre confrère André Kambala face à Kijila Tatou André. Notre invité ce matin est l'assistant Elisha. C'est cela. Il est Élie Capito, il est de l'IFASIC. Vous avez déjà pris l'habitude de l'entendre, François Élie, analyste politique. Et vous avez déjà pris l'habitude de le suivre sur nos antennes. Eh bien, vous venez de suivre ce reportage. Et on comprend donc que la population Louba semble vivre dans l'amertume et la douleur. Est-ce que cette situation peut s'aggraver? Que pourrait-il se passer si on n'aide pas la communauté Louba à guérir de ce traumatisme collectif?
Merci beaucoup. Bon, disons que ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de la communauté Louba au regard du reportage, il s'agit de Louba, le Loua donc, et d'autres communautés, notamment les Kouba, les Tchokwe, tous ceux qui composent en fait l'unité Kassaen, mais qui ne sont pas des Louba, mais qui sont autant que les Louba, qui font partie de la province du Kassai occidental. Disons que nous sommes ici en face d'une réalité, c'est vrai qu'il est davantage exacerbé à la suite des manipulations politiques, mais l'histoire est vraie. L'histoire repose sur un fond de dévaluation des uns vis-à-vis des autres, mais l'histoire repose aussi sur un certain nombre de séquelles qui sont restées, qui constituent en fait un traumatisme collectif des parts et d'autres. La douleur est donc partagée et donc, en ce qui concerne l'histoire, la reconstitution des faits, les responsabilités aussi sont partagées. Alors, parce que toutes ces communautés vivent, c'est vrai, dans une sorte de douleur qui est vraie, il est important ici que l'analyse que nous devons faire soit celle qui nous permet au fait de ne pas chercher les boucs émissaires. C'est qui le premier à avoir jeté la pierre sur l'autre, mais regarder davantage vers le futur plutôt que le passé, parce que ce passé-là nous interpelle nous tous, il nous responsabilise nous tous. C'est le cas spécifiquement ici de Louloua. Lorsque vous interrogez les Lélés ou les Bachilélés, par exemple, ils vous disent que les Louloua ont tendance à nous dominer. Alors que quand vous reconstituez l'histoire telle que le professeur Chijuke Kabongo de l'ISP a retracé l'histoire de la naissance de Louloua frère, il vous dit que les Louloua avaient fait un constat, ils ont constaté que nous n'étions pas, les Louloua n'étaient pas, étaient minorisés au niveau de postes administratifs. Bon, les eux prennent une séquence de l'histoire pour dire ils ont tendance à nous dominer. Ça signifie qu'il y a plusieurs grilles de lecture face à des situations qui affectent l'histoire d'un groupe. Et de sorte qu'il est dangereux de pouvoir reconstituer chacune des grilles de lecture pour rétablir les responsabilités. Ce qui est important, c'est vrai d'avoir en mémoire cette histoire, mais de regarder de l'avant en disant les priorités par rapport à notre existence sont devant nous. Le passé peut souvent constituer une base une pomme de discorde. Mais si en nous référant au passé, nous nous mettons d'accord que nous avons été de frères avant de devenir des ennemis à la suite des disputes et des contradictions, donc l'élément positif qu'il faut retenir, c'est que dans le passé, il y a eu une dose de fraternité qu'il faut capitaliser par rapport au futur.
Puisque vous parlez de regarder vers le futur, mais comment alors peut-on expliquer le fait que les enfants des groupes anciennement persécutés ne peuvent pas oublier ce qui est arrivé à leur groupe ou à leurs parents?
Bon, ils ne peuvent pas oublier parce que l'histoire, dès l'instant où vous connaissez dans l'histoire des moments de contradiction, des moments de rupture, donc quelque chose de négatif vient affecter l'histoire normale telle qu'elle était. Vous avez vécu dans une histoire de paix, désormais c'est devenu une histoire d'anxiété, une histoire de peur, une histoire de traumatisme. Donc, et que vous vous mettez à reproduire cela à travers le processus d'éducation, vous avez des contes. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a eu des contes, peut-être que beaucoup de gens n'avaient pas fait attention à Kananganou. Quand on a grandi, on nous racontait, il y avait des contes qui retraçaient l'histoire en citant un certain nombre de villages qui sont vrais. Nous, à l'époque, on pensait que c'était des villages mythiques. Mais par la suite, on a découvert que c'était des villages vrais. Et le type de personnes qu'on racontait dans ces villages traduisait une identité de violence, un profil de mauvaise personne, de sorte que, sans savoir, ce processus de narration intégrer chez nous, dans l'imaginaire, le fait que les gens issus de telles tribus sont mauvais. Alors, de tels exemples d'éducation sont de nature à transmettre de génération en génération la face négative de l'histoire, donc celle qui prend en compte essentiellement les traumatismes et les violences, telles qu'elles sont devenues des séquelles imposantes dans l'histoire, et donc à façonner le profil, à façonner le comportement avec lesquels nous allons, lorsque nous allons à la rencontre de l'autre, nous allons donc extérioriser ce type de comportement. Je vais vous donner un exemple dans l'histoire même du Kasaï occidental. Lorsque vous êtes en face de Lulua, par exemple, la rencontre entre les Lulua et les Babindi, par exemple, c'est qu'on voit un Bindi, un homme inférieur. On voit, c'est vrai que au début, on a pu constater que la plupart de ceux qui servaient à des tâches domestiques étaient issus de cette tribu, un peu comme on l'a vu avec les Bayaka Kinshasa. Alors, on a développé l'idée que tous ceux qui s'adonnent à des travaux domestiques, hein, ce sont des hommes inférieurs. De sorte qu'il y a eu des expressions, par exemple, en Tchiluba, on dit « est-ce que Mubindi Muntoigne ?» Donc, c'est pour dire « est-ce qu'un Mubindi, c'est un homme ?» Donc, on nie l'identité, on nie l'existence humaine à quelqu'un qui pourtant est un être humain. Donc, c'est resté comme ça. Les enfants Bindi aussi ont intériorisé le fait que nous sommes dévalués, on nous fait croire que nous sommes inférieurs, et cela déclenche un processus de violence qui est vu du point de vue des Mubindi comme un mécanisme proactif de protection. Donc même lorsque la menace n'existe pas, il doit penser qu'il doit à un moment extérioriser cette violence parce que c'est reconnu tacitement que la société lui en veut, la société ne l'accepte pas, ne l'admet pas comme un homme. Et ainsi on trouve des expressions du genre, il y a d'ailleurs un proverbe Tchiluba qui le dit très bien, donc en d'autres termes, j'ai été mordu par un serpent et désormais je commence à craindre même les lézards, alors que les lézards lui il ne mord pas. Donc c'est ce qui arrive. Hein, on connaît, ce sont en fait des faits traumatisants qui sont réels, mais qui modifient l'histoire en termes d'interaction, qui modifient l'histoire aussi en termes de l'idée que l'on s'est fait de l'autre. Et donc, de génération en génération, lorsqu'il y a des contes, il y a des narrations, il y a des historiettes, il y a de concepts d'évaluateurs auxquels on ne prête pas attention, mais que nous perpétuons, ces concepts traduisent donc substantiellement une forme d'éducation qui détermine et façonne le profil et l'identité.
Quand je vous suis très bien, professeur Elika, eh bien là, c'est une forme de traumatisme collectif auquel vous faites allusion. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un traumatisme individuel ?
Bien sûr, il y a une différence. Le traumatisme collectif, c'est la manière dont le groupe réagit face à ces éléments qui viennent modifier son histoire, hein, son histoire de toujours. Donc, tandis que le traumatisme individuel, c'est la manière dont chacun de nous se sent affecté à la suite, par exemple, de la perte d'un être cher, à la suite d'un événement particulier, dans le sens que cet élément vient rompre la quiétude qu'il avait depuis toujours. Vous perdez un être cher, vous assistez à un accident, vous voyez couler à flot le sang, et ça vous affecte individuellement. Tandis que le traumatisme collectif, c'est vrai, il y a l'élément de contradiction, il y a l'élément de rupture, mais toutes ces séquelles qui vous affectent à la suite de cet élément de violence, cet élément dramatique qui a surgi dans votre histoire, hein, donc dans l'histoire du groupe, qui façonne ce groupe, de sorte que désormais, ce groupe commence à apprécier l'autre, commence à lire l'identité de l'autre en fonction de l'événement dramatique devenu un élément de référence presque absolu. Donc ça, c'est le traumatisme collectif.
Alors, parlons un peu de l'action de réconciliation et de guérison du traumatisme qui peuvent être menées dans une région où il y a eu des violences ethniques pour des futures générations, pour que les futures générations ne soient pas affectées et ne commettent pas des violences à leur tour, c'est-à-dire un rejet ou traumatiser d'autres groupes. Comment est-ce que cela peut se faire?
De plusieurs façons. Vous restons au Kasaï occidental, vous verrez, le professeur Tchijouké a fait, non, je crois que c'est l'autre qui parlait de la naissance de l'unité Kasaï, il a fait allusion à la chasse, hein, contre la chasse au Balouba, engagée autrefois par les Lulua. Il y a un événement important dans cette affaire, c'est c'est que le pacte de réconciliation, c'est vrai, a combiné des éléments à la fois mythiques et matériels. Mm-hmm. Mais c'est dans l'histoire, dans la psychologie Lulua, où on considère que lorsque nous avons des conflits entre nous, nous devons communiquer aussi bien publiquement qu'avec les ancêtres, parce qu'eux avaient été des partisans de la paix. Donc, à l'occasion, il y a des cérémoniales. On peut par exemple immoler une grande chèvre que l'on appelle Mbujwa Bupole au Kasaï. Et le Mbujwa Bupole, cette chèvre dont le sang est versé avec des paroles particulières qui sont en fait le reflet d'un engagement collectif attestant qu'on renonce au recours à la violence de sorte que plus jamais la paix ne soit rompue. Alors la chèvre, bon, est dépiécée, la viande. Hein, tout le monde peut la manger, ça c'est le signe que nous tous nous renonçons à ce qui avait été dramatique entre nous. Donc, en d'autres termes, nous cessons de considérer que les autres, les bourreaux sont de bourreaux éternels. Nous les acceptons ou nous les réadmettons comme des frères. Et aussi, ils s'engagent à ne plus d'aimer nous violenter. Donc nous cimentons davantage le lien de fraternité qui existait avant la situation de rupture. Donc il y a plusieurs on connaît par exemple des situations lorsque vous suivez l'histoire même des conflits qui ont existé entre les Lulua et les Tetela, il a fallu que des équipes sportives, de formation sportive arrivent à réconcilier les deux équipes. Mm-hmm. D'ailleurs, lorsque vous reconstituez l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'un des événements importants à la base du transfert de la capitale de Lusambo vers Kananga, vers le Luabu, c'est entre autres la victoire d'une équipe qui provenait de la périphérie, donc l'actuelle équipe de Chingunku, sur une équipe de la capitale Lusambo. Donc les gens se sont dit, mais finalement donnons à cette autre partie la possibilité d'être la capitale, donc les lieux où chacun de nous peut se retrouver. Mm-hmm. Il y a plusieurs événements, on peut encore se retrouver avec des stèles de paix, hein, c'est un monument qui est construit et qui est au fait le symbole de l'unification et qui traduit l'engagement collectif à renoncer à toute modalité ou à tout mécanisme destiné ou tendant à rompre la paix. Donc, dans l'histoire du Kasaï occidental, lorsque vous retrouvez, par exemple, lorsque vous êtes à Kananga, vous voyez par exemple des monuments, on vous dit, ce que l'on appelle la maison Lulua frère. C'est au fait un symbole pour reconnaître aussi qu'entre les Lulua eux-mêmes, il y a eu des contradictions. Les Mutombo et les Katawa, par exemple, ce sont des contradictions majeures qui ont été à la base aussi, comme Grégoire Nyongampo il a relevé dans son argumentaire, qui ont été à la base de plusieurs freins.
François Erika, encore ce que vous dites, est-ce que les traumatismes collectifs peuvent être effacés facilement?
Bon,
parce que disons, l'histoire reste gravée, mm-hmm. et que si cette histoire est mal transmise aux générations futures, mm-hmm. et c'est difficile pour qu'elle soit effacée.
Bon, ne disons pas qu'il peut être effacé facilement. Parce que si nous disons facilement, c'est comme si le mal lui-même, tel qu'il a émergé, était un mal facile. Disons que ces traumatismes peuvent être effacés lorsqu'il y a de la volonté, lorsque le dialogue est mis en action, mm-hmm. lorsqu'on recourt à des procédés qui sont au fait ceux qui permettent à ce qu'on ne privilégie pas le passé dans l'histoire de gens.
Et quelle est l'approche idéale à adopter pour réellement guérir des traumatismes collectifs?
L'approche idéale, c'est d'éviter de culpabiliser davantage ceux qui vous ont torturé, parce que le traumatisme collectif affecte aussi bien les bourreaux que les victimes. On a tendance à croire que c'est seulement la personne victimisée, donc la personne qui est victime, qui est le plus traumatisée. Non. La personne qui commet le mal et la personne qui est victime du mal sont toutes traumatisé. Mais dans le cas d'espèces où nous parlons de groupes ethniques, nous sommes en face de groupes qui réalisent que le traumatisme est de part et d'autre. En tout cas, lorsque vous questionnez le rapport entre les Lulua et l'unité kasaïenne, il y a des blessures de part et d'autre, de sorte qu'il est difficile de dire les uns ont raison, les autres n'ont pas. Donc il faut d'abord éviter, comme je dis, de rechercher la cause en voulant responsabiliser, en voulant donner tort aux uns et donner raison aux autres. Il faut que dans ce que l'on fait, on puisse davantage regarder devant plutôt que derrière. Dans tous les cas, on vit. Il y a un proverbe d'ailleurs en Chiluba qui symbolise l'un des mécanismes de guérison. On dit ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas nés pour regarder derrière, nos pieds marchent en regardant devant. Donc ça c'est déjà un proverbe et au Kassai c'est intériorisé. De sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que malgré que nous parlons de ce phénomène, mais quand vous êtes sur terrain, vous vous rendez compte que l'extériorisation, c'est-à-dire les conséquences ne sont pas aussi visibles qu'on le pense. Donc il est important de considérer que l'approche idéale, à mon sens, c'est celle qui nous amène, nous tous, à favoriser une grille de lecture par rapport à l'avenir.
Eh bien, François Elika, nous allons revenir à vous. Juste le temps pour nous de suivre ceci.
Les violences intercommunautaires ont des conséquences psychologiques sur toutes les victimes. Il y a des conséquences individuelles, c'est-à-dire sur chaque victime, qu'elle ait été directement ou indirectement touchée par les conflits intercommunautaires. Le groupe tout entier est aussi affecté par les violences vécues. C'est le traumatisme collectif. Il ne s'agit pas d'une réaction à ce qu'un individu a vécu pendant les conflits ethniques, comme la perte d'un proche ou la destruction de ses biens. Si les traumatismes collectifs ne sont pas pris en charge, alors ils traversent le temps et sont transmis de génération en génération. Les enfants des survivants sont donc à leur tour traumatisés, et si on ne les aide pas à guérir, alors ils ont le sentiment qu'ils sont à leur tour en danger et qu'ils vont à leur tour être victimes de dévaluation et de persécution. Ils peuvent donc avoir des attitudes de violence vis-à-vis des autres groupes, même si ces groupes ne les menacent pas. Pourtant, il existe différentes manières de faciliter le rétablissement communautaire et la réconciliation. Par exemple, après des violences interethniques, il est important que des commémorations, des rituels communautaires et des moments de recueillement et de pleurs soient organisés avec tous les groupes. Ces commémorations ne doivent pas être centrées uniquement sur les souffrances passées ou sur la revanche. Elles doivent permettre à tous les groupes de sortir du passé sans pourtant l'oublier, mais en tirant des leçons pour notre avenir commun. Nous devons tous nous recueillir et offrir respect aux survivants et à leurs enfants, afin de leur témoigner que nous reconnaissons leurs souffrances et que nous contribuons à leur rétablissement et à leur bien-être.
Ben voilà, nous allons bientôt, dans quelques instants, terminer, mais rapidement avec vous, François Elika. Comment devons-nous réagir face aux communautés traumatisées? Qu'est-ce que nous devons leur apporter comme assistance? Et surtout, puisque vous parlez de regarder vers l'avant, comment les encourager à regarder devant et à ne pas se laisser enfermer dans la douleur et dans leur passé douloureux et destructeur?
La vie humaine, l'être humain est un être social qui a besoin des autres pour se développer, pour maîtriser son existence et il en est ainsi des communautés. Il faut encourager les communautés à réaliser que le passé n'est pas l'unique étape dans la vie. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais que ce qui est passé, bien qu'on ne peut pas l'oublier, doit seulement nous servir de tirer des leçons. On doit tirer des leçons pour voir ce qui est arrivé, comment nous devons l'éviter. Il faut ici éviter le fait que des enfants ou les autres membres réalisent que nous avons le devoir historique de corriger la honte que nous avons subie du fait de notre humiliation parce que nous avons été dominés ou battus par tel autre groupe. Donc il est important ici d'encourager davantage les communautés à travailler ensemble. Et dans le cas, par exemple, du Kassai occidental, vous vous rendez compte que le Lulua ne peuvent pas s'est développé sans recevoir le maïs qui vient de Mweka. Le Mweka ne peut pas se développer sans recevoir les savons et autres qui viennent de Kananga. Donc, ils sont obligés de par l'histoire à vivre ensemble. La proximité géographique leur impose cela. Alors, il est important ici de réaliser que ce qu'il faut jeter, hein, on dit d'ailleurs qu'il faut davantage jeter les ponts pour aller vers les autres plutôt que de créer des barrières qui vont nous empêcher d'aller vers les autres. Donc, ce qui est important ici de faire, c'est quoi? C'est qu'il faut davantage encourager un processus de réconciliation en évitant la lecture de l'histoire qui davantage innocente les uns et culpabilise les autres.
François Elika, analyste politique, était donc notre invité pour cette chronique Bénévolentia qui parlait du traumatisme collectif. Merci d'avoir été de nôtre et au revoir. Merci.